Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alexandre Benalla est en détention provisoire depuis hier, conformément aux réquisitions du parquet de Paris. L'ancien collaborateur de l'Élysée n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Nous vous expliquerons comment et pourquoi dans un instant, alors que le Sénat dévoilera dans 3 heures ses conclusions sur cette affaire.
Et puis nous entendrons également les témoignages d'habitants du Bas-Rhin après la profanation d'un cimetière juif. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées partout en France contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron leur a répondu.
Génie de la mode, Karl Lagerfeld. Raphaël des morts à l'âge de 85 ans. Le directeur artistique de Chanel, d'origine allemande, a donné à la maison de haute couture une renommée mondiale. Nous irons à Berlin.
Berlin qui a dévoilé avec Paris sa stratégie pour faire rayonner l'industrie européenne. Elle est censée aider les entreprises à résister à la concurrence internationale.
Après ce journal, Frédéric Saïs se demandera dans son billet politique pourquoi Bernard Cazeneuve revient sur la scène politique. Alexandre Benalla se réveille donc en prison ce matin. L'ancien conseiller de l'Élysée a été placé en détention provisoire hier soir, tout comme Vincent Kras, ancien salarié de La République En Marche. On sait que le premier est à la prison de la Santé à Paris, récemment rénovée. Il est dans le quartier dit des personnes vulnérables. Bonjour Florence Thurme.
Bonjour.
Spécialiste des questions de justice à France Culture. Les deux hommes, Florence, ont en fait violé leur contrôle judiciaire.
Oui, et c'est bien ce qui motive cette détention provisoire demandée à la fois par les juges d'instruction et le parquet et décidée hier soir par le juge des libertés de la détention. Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été mis en examen le 22 juillet avec interdiction d'entrer en contact. Ils se sont pourtant rencontrés 4 jours plus tard, a révélé Mediapart en publiant des enregistrements de cette entrevue. Le site d'information a également remis 7 captations sonores à la justice tout en refusant d'indiquer dans quelles conditions elles ont été effectuées. On y entend les deux hommes évoquer le contrat passé avec une société russe, leur intention de modifier les montages financiers pour ne plus apparaître dans l'organigramme, un contenu qui peut s'interpréter comme une volonté de faire disparaître des preuves et qui a pu peser également dans la décision des juges, même si les enregistrements de Mediapart restent toujours un mystère sur les conditions dans lesquelles ils ont été effectués. Le parquet de Paris a d'ailleurs ouvert une enquête. La défense d'Alexandre Benalla conteste de son côté la légalité de ces enregistrements qui ne proviennent ni d'écoutes judiciaires ni d'écoutes administratives. Les avocats d'Alexandre Benalla et Vincent Kras vont maintenant déposer un référé liberté pour tenter d'obtenir au plus vite une remise en liberté de leurs clients.
Et il faut aussi souligner ce matin, Florence, qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras pourraient être mis en cause par les sénateurs. La commission des lois se réunit en ce moment même et rendra son rapport sur cette affaire dans la matinée.
Oui, depuis fin juillet, les sénateurs ont multiplié les auditions. Plus d'une 20aine de personnes ont prêté serment devant la commission qui a souligné à plusieurs reprises les invraisemblances, les incohérences et les contradictions. Les conclusions du rapport s'annoncent particulièrement sévères sur les dysfonctionnements en matière de sécurité pour l'Élysée, avec 13 propositions à la clé, mais aussi d'autres suites judiciaires potentielles pour Alexandre Benalla si le bureau du Sénat décide de saisir la justice pour faux témoignages, notamment sur les passeports et les contrats russes. Un délit passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Florence Thurme. Le rapport sénatorial sera rendu public à 11h tout à l'heure. Non à la banalisation de la haine. C'est en montrant ce slogan, entre autres, que des milliers de Français se sont rassemblés hier contre l'antisémitisme. Ça suffit, disait-il aussi. Ils étaient 20 000 Français à Paris, politiques et anonymes selon les organisateurs. 2 000 personnes à Toulouse, 1500 à Marseille, 1 000 encore à Belfort, Rouen ou Clermont-Ferrand. Du monde également à Quatzenheim dans le Bas-Rhin où un cimetière juif a été profané hier justement. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu sur place à la rencontre des élus et des habitants. Voici ainsi leur témoignage et la réponse du chef de l'État.
Ça fait presque 20 ans qu'on habite là et on n'a jamais rien eu. Et pourtant tous les jours on y pense. On se demande effectivement si ça va nous arriver ou pas. Ben voilà, ça y est, c'est arrivé. Je regarde les tombes à chaque fois et chaque fois je me dis, tiens, bon, encore une journée de gagner, quoi. Que c'est quand même un territoire qui a souffert largement de la guerre. Certaines personnes ont la mémoire courte et il semblerait qu'il y ait un devoir d'histoire à reprendre.
Je suis un ancien de Quatzenheim et je tenais absolument à faire un déplacement parce que ça me touche. Vous pouvez savoir à quel point.
Ça nous touche tous. C'est pour ça qu'on est là avec vous.
Oui, c'est bien. C'est ça, on apprécie.
Mon père est fils de déporté. Ses parents adoptifs, mes grands-parents sont enterrés ici.
Et mes grands-parents.
Les grands-parents, toute la famille, toute la famille tout le personnel familial est ici.
C'est pour ça que c'est ce visage de Quatzenheim qu'il faut donner.
C'est pour ça qu'il faut que ça change, monsieur.
Que vous soyez là.
Oui.
Et qu'on soit là tous ensemble.
Tous ensemble, toutes les communautés réunies.
Et qu'on frappe les consciences, vous savez. On prendra des actes, on prendra des lois et on punira. Mais la fin, c'est dans la conscience de chacune et chacun. Et la République, elle s'apprend et elle se porte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Elle les punira. Mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées à d'autres. Et c'est aussi par la réaction populaire, la force qu'il y a en chacun, qu'on apportera la meilleure réponse.
Des propos recueillis par France Bleu Alsace pour France Culture. Emmanuel Macron promet donc des actes forts. Il sera ce soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et doit y donner un discours. À cette occasion, il pourrait annoncer une série de mesures pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. Cela pourrait être une loi qui engagerait la responsabilité des plateformes internet sur les contenus antisémites et racistes. Renforcer aussi l'éducation sur l'utilisation des réseaux sociaux. Voici les pistes étudiées par l'Élysée. C'est la dernière chance, selon la CFDT, qui reconnaît d'ailleurs que c'est assez mal parti. Les syndicats et le patronat se retrouvent aujourd'hui au MEDEF pour la dernière séance de négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Les questions de la précarité, des contrats courts et d'un éventuel bonus-malus pour les entreprises ne sont pas encore tranchées. Si aucun accord n'est trouvé, le gouvernement a prévenu, il rédigera seul le projet de réforme. Eux sont peu nombreux en contrat court et de moins en moins au chômage. Les cadres sont davantage recrutés en France. L'Association pour l'emploi des cadres évoque ainsi ce matin une sixième année consécutive de hausse du nombre d'embauches pour l'année 2019. Le nombre d'embauches des cadres devrait ainsi se situer entre 270 000 et 292 000 postes, soit jusqu'à 10% de progression par rapport à 2018. Et donnons la parole au cadre, justement, des dirigeants d'entreprise plus précisément. Certains participent en ce moment au grand débat national voulu par le gouvernement comme une réponse aux gilets jaunes. À Toulouse, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers de Haute-Garonne ont organisé en début de semaine une séance de discussion avec 175 dirigeants. Un débat sans filtre auquel a assisté pour France Culture Stéphane Iglesis.
Les chefs d'entreprise présents n'ont pas économisé leur salive pendant plus de deux heures. Corinne a une entreprise d'informatique. Elle se demande pourquoi les Google, Microsoft et Amazon ne sont pas taxés au même niveau qu'elle.
Elles peuvent pratiquer leur chiffre d'affaires en France et payer leur impôt ailleurs. Je ne suis pas là sur forcément réduire l'impôt, c'est juste être en concurrence, avoir les mêmes règles du jeu partout. Mais le problème, c'est que là, on parle de l'Europe, on parle de commerce international. Et pourquoi la France ne deviendrait pas un pays attractivement intéressant pour ses entreprises au niveau de la fiscalité ?
Marine souhaite que les chômeurs aient un bonus financier s'ils reprennent un emploi, par exemple dans la restauration, là où elle travaille.
C'est une personne qui ne veut pas perdre de vue sa vie active. Et bien, tous ceux qu'elle touche de mon côté sont dégrévés de son chômage. Elle gagne strictement rien à se lever le matin pour venir travailler pour moi. Je suis d'accord, on ne dit pas que les chômeurs ils sont là à faire la grasse mat et à rien faire. Je ne suis pas là en train de dire ça. Mais elle n'a aucune incitation à avoir un premier pied au retour à l'emploi.
Véronique est architecte d'intérieur, elle ne comprend pas les différents taux de TVA pratiqués en France.
Les micro-entreprises ont moins 20% de TVA en fait, et nous on a carrément 20%, voire 10% quand on fait le chantier totalement. Mais du coup, ça fait des disparités qui sont quand même énormes. Et en plus, il y a beaucoup de gens maintenant, des artisans qui travaillent au noir, de plus en plus. Et tout ça, on fait comme si ça n'existait pas.
Alain, petit patron plus aguerri, pose une question restée sans réponse.
Les économies, on va les faire où ? C'est vrai que l'imposition est trop élevée, il faut la diminuer. Mais il faut avoir le courage en face de dire, voilà les secteurs sur lesquels on va réduire les dépenses.
Corinne reprend la parole pour souhaiter embaucher et débaucher plus facilement.
Comment on fait, en particulier dans les petites entreprises, pour garder les gens ou pour pouvoir aussi ne pas les garder quand finalement ils se révèlent non compétents.
Enfin, une seule table ronde sur les 8 évoque la transition écologique avec l'exemple de ce café Ecolobio toulousain qui incite les clients à revenir avec leur sac en papier, Céline.
D'arriver petit à petit à dire mais revenez avec votre sac papier, et c'est aussi dire aux commerçants, dire mais vous revenez avec, vous gagnez quelque chose.
Toutes ces questions ont été compilées dans des cahiers, la synthèse de ce débat sera envoyée dans les prochains jours au président de la République en espère la Chambre de commerce, que tout ça ne reste pas au fond d'un tiroir.
Stéphane Iglesis, depuis Toulouse. Demain, vous entendrez dans ce journal à 8h des paroles, des doléances d'habitants d'une petite commune bretonne à Erquy, entre Saint-Brieuc et Saint-Malo. L'heure du jugement pour le géant bancaire suisse UBS, jugé cet automne à Paris pour démarchage bancaire illégal et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il sera fixé sur son sort cet après-midi. Le parquet national financier a requis une amende de plus de 3,5 milliards d'euros. Son visage est à la une des journaux ce matin. Le créateur Karl Lagerfeld est mort hier à 85 ans. Cheveux blancs tenus par un catogan, lunettes noires. Le créateur aura passé 36 ans à la tête de la maison Chanel, une longévité exceptionnelle dans ce métier. Il avait aussi une personnalité énigmatique. Né en Allemagne en 1933, celui que l'on surnommait le Kaiser de la mode a voulu effacer son passé, effacer ses racines. Il aimait jouer sur cette ambiguïté et n'a jamais vraiment fait carrière outre-Rhin. Comme le prouve ce matin les Une de la presse, Ludovic Piétenu.
Il est un dieu en France, peut-on lire en une du Tageszeitung avec cette magnifique photo noir et blanc de Karl Lagerfeld en 1972 sur l'esplanade du Trocadéro avec la tour Eiffel en arrière-plan. L'image d'un Allemand qui a réussi, raconte Christine Weidenschlager. Elle est responsable mode au Musée des Arts Décoratifs de Berlin.
J'ai un très grand respect pour son travail et pour sa créativité qu'il a participé dans le monde de la haute couture parisienne, lui qui était Allemand. Avoir du succès à Paris, pour moi, c'était quand même très exceptionnel.
En plus de ce succès à l'étranger, que représentait Karl Lagerfeld aux yeux des Allemands ?
On a beaucoup de respect, bien sûr, de cette volonté de faire, de travailler et de vraiment exercer son métier du matin au soir. Et pour les Allemands, c'était quelqu'un qui tenait le phare, que aussi en Allemagne, il y a de la culture. Il tenait ce phare à Paris. On était très très fiers de lui.
Il était un pape, un ambassadeur, comme le titrent plusieurs journaux en Allemagne, mais que les Allemands ne suivaient plus que par l'intermédiaire des tabloïds et de la télévision.
Et hommage ce matin sur France Culture à Karl Lagerfeld dans une vingtaine de minutes avec votre invité Guillaume, la journaliste Françoise-Marie Santucci.
Mais avant cela, il est 8h11 sur France Culture. La suite des matins avec votre journal Clara Lecoq-Réal. La France et l'Allemagne prennent les devants pour créer de nouveaux champions de l'industrie en Europe.
Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a rencontré hier son homologue allemand pour tenter effectivement d'établir de nouvelles règles de concurrence dans l'Union européenne et faire face ainsi à une autre concurrence plus vaste, celle de la Chine notamment. Cela s'inscrit comme une réponse au refus par l'Union européenne d'acter la fusion entre Alstom et Siemens pour créer un géant du ferroviaire. Un mémorandum a donc été présenté hier, Bastien Münch.
Les ministres de l'économie français et allemand ne veulent plus que cela se reproduise. Le mariage avorté entre Siemens et Alstom, empêché par la Commission européenne, fait office d'électrochoc pour Bruno Le Maire et Peter Altmaier. Dans le mémorandum publié par les deux pays, hier, les objectifs sont clairement définis. D'abord, il s'agit de protéger les technologies européennes. Le ministre de l'économie français ne veut pas que ces technologies profitent à d'autres continents. Le but, c'est donc de mieux contrôler les investissements étrangers en Europe. Les deux ministres veulent également agir face aux règles qu'ils disent dépassées dans l'Union, des règles qui empêchent les mariages de certains gros groupes pour préserver la concurrence. Le maire et Altmaier proposent donc une sorte de veto face aux décisions de la Commission. Autrement dit, dans certaines conditions, les États pourront passer en force, même si l'Union européenne refuse une fusion entre deux entreprises. Et les deux pays ont décidé de mettre le prix pour fabriquer ces champions de l'industrie européenne. 1 milliard d'euros de la part des Allemands et 700 millions d'euros des Français pour un premier projet autour de batteries pour des voitures électriques. Un consortium va être créé pour regrouper toute la chaîne de production, des matières premières aux constructeurs automobiles. Seul espoir désormais que la Commission européenne, entendez le gendarme de la concurrence, accepte de faire le dos rond face à cette initiative franco-allemande.
Cette concurrence-là se joue aussi entre plusieurs pays et largement contre le Royaume-Uni en ce moment. À l'approche d'un Brexit encore flou, le constructeur Honda annonce qu'il va fermer son usine de Swindon en 2021, son usine au Royaume-Uni. Le japonais parle de bouleversement sur le marché automobile mondial et non du Brexit, mais c'est un nouveau coup dur tout de même pour le secteur en Angleterre. Un coup dur surtout pour les salariés sur place rencontrés par Aude Soufi.
Juste après l'annonce hier matin, les salariés ont été invités à rentrer chez eux sous le choc de cette décision. En 2021, l'usine fermera ses portes et ses 3500 employés se retrouveront sur le carreau.
C'est mon travail à plein temps, c'est ma vie, donc maintenant, techniquement, je suis sans emploi.
C'est très triste, beaucoup de familles, d'enfants, donc vraiment dégoûtés.
Dans cette ville de 220 000 habitants, tout le monde connaît quelqu'un qui travaille chez Honda, l'un des plus gros employeurs de la région.
C'est dévastateur pour Swindon. Swindon est fini sans Honda. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise nouvelle.
Les 160 000 voitures assemblées ici chaque année le seront donc au Japon et en Chine. C'est un peu plus de 10% de la production automobile totale du Royaume-Uni qui va disparaître. Un coup dur pour toute l'industrie du pays. Alan Tomala du syndicat Unite.
Pour un emploi sur la ligne d'assemblage, il y en a 4 en danger chez les sous-traitants. Donc si on parle de 3500 emplois en danger, vous multipliez par 4, ça fait un nombre significatif.
Le constructeur japonais justifie son choix par la nécessité de revoir son modèle de production en mettant l'accent sur les véhicules électriques. Rien à voir, dit-il, avec le Brexit, mais beaucoup ici dénoncent l'incertitude qui entoure la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne comme un facteur important.
Le Brexit justement, Theresa May se rend aujourd'hui à Bruxelles, la première ministre. ministre britannique va faire le point sur le dossier avec le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Enfin, notons cette découverte, non expliquée encore, une tortue géante que l'on pensait éteinte depuis plus d'un siècle a été découverte cette semaine dans l'archipel équatorien des Galapagos. Les tortues des Galapagos doivent leur longévité exceptionnelle à une capacité génétique qui permet de réparer l'ADN, voilà ce que disent les scientifiques. Et c'est donc en quelque sorte une tortue ressuscitée. Le temps de ce mercredi sera bien calme, nuageux au nord, ensoleillé au sud, avec des températures encore de saison. Comptez ce matin 5 degrés à Besançon, Lille et Paris, 6 degrés à Lyon et Bordeaux, 10 près de la Méditerranée.